Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière visite radiophonique de l'année, toujours avec Nelly Lafond du Pays d'Art et d'Histoire, Mende, Gévaudan et Mont-Lozère. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Et avec Caroline Entregue du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de la Lozère. Salut Caro.
Salut.
Alors pour cette dernière émission de l'année, vous allez m'emmener où les filles ?
Alors on va t'amener en Margeride pour une visite un peu particulière et on ne sera pas seul puisque là on avait besoin d'un spécialiste sur le sujet. On va aborder un thème qui est très actuel sur le territoire. On va parler de pastoralisme et pour aborder ce thème, on a fait appel à Bruno Jodon qui est historien, enseignant à la faculté d'éducation de Mende et qui va donc nous éclairer sur le pastoralisme plutôt au XVIIIe siècle.
Allez, on s'en va le retrouver.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entregue.
Nelly Lafond.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mende et Lot en Gévaudan et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Lozère.
Allez, c'est parti pour cette dernière émission de l'année. Donc Bruno qui nous a rejoint. Salut Bruno.
Salut.
Alors merci d'être avec nous pour cette dernière émission pour parler de pastoralisme. Mais Nelly, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est le pastoralisme ?
Oui, c'est important de s'arrêter un petit peu sur les mots. Donc le pastoralisme, qu'est-ce qu'on entend derrière ça ? C'est vrai que quand on pense au mot berger, troupeau ou pastoralisme, on imagine souvent une pratique un peu désuète, un peu du passé, d'un autre siècle, on va dire, ou bien quelques marginaux sur des montagnes comme ça. Et pourtant, le pastoralisme fait encore vivre des centaines de millions de personnes dans le monde et reste un système d'élevage particulièrement actuel. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Le pastoralisme, ça repose sur quoi ? Bien sur la mobilité des troupeaux et l'utilisation des parcours naturels pour nourrir les animaux.
D'accord, merci Nelly. Donc en fait, c'est une pratique qui est un peu contraire à l'élevage intensif qu'on peut voir sur certaines parties du territoire.
Oui, c'est ça. En fait, le pastoralisme s'appuie sur les ressources disponibles selon les saisons, les conditions climatiques et les territoires traversés.
Donc l'idée, c'est que les bergers déplacent leurs troupeaux. Donc dans l'idée du pastoralisme, on va trouver la question du parcours, où est-ce que les brebis vont manger, et la draille, qui est cette voie qui leur permet de se déplacer.
Voilà, la draille qu'on a vue dans diverses émissions.
Oui, du coup, les parcours existent, et le pastoralisme depuis longtemps sur la Margeride. Au XVIIIe siècle, souvent, les gens disent que ces parcours, et les pratiques qui vont avec existent depuis un temps immémorial, pour parvenir à le dater. Et l'idée du parcours, c'est que c'est un réseau, en fait, et la grande transhumance des brebis du Languedoc, elle montre bien cette idée de parcours. C'est-à-dire que les bêtes qui sont dans l'arrière-pays de Nîmes, de Montpellier, elles sont sur des terrains où elles passent les mauvais jours, l'automne, l'hiver, et puis le printemps arrive, il commence à faire trop chaud, et par les drailles, les grandes collectrices qui montent de l'arrière-pays de Montpellier ou de Nîmes, on va monter sur le Mont-Aigoual, le Mont-Lozère, la Margeride, où il y a les parcours d'épaissance et de transhumance des beaux jours pour l'estivage. Et donc il y a cette idée quand même qu'il faut imaginer les parcours comme des véritables réseaux. Il y a des espaces dans la plaine, des espaces dans la montagne, ils sont complémentaires, ils sont reliés par ces drailles, et la draille, elle fait partie du parcours. Et donc souvent, c'est un chemin public. Et vers Pelouse ou l'Aubert, la draille, ça fait parfois jusqu'à 100 mètres de large, ce qu'on a un peu de mal à imaginer aujourd'hui.
Du coup, on peut parler de la Lozère comme un territoire emblématique du pastoralisme ?
Ah oui, je pense, parce qu'aujourd'hui encore, d'abord, c'est à la fois un élevage extensif et un petit peu intense. Et puis au XVIIIe siècle, ce qu'on mesure mal, c'est qu'il y a trois fois plus de bétail qu'aujourd'hui, il y a deux fois plus d'habitants, donc ça aussi, c'est un peu difficile à se représenter. Les paysages, on a l'impression qu'ils sont un peu intemporels, mais ils ont pas mal varié. Et puis, dans la région de Saint-Frézal-d'Albuge, c'était une zone d'accueil de la grande transhumance du Languedoc, avec à peu près 300-400 bergers du Languedoc qui montaient avec les troupeaux à cette époque-là. Et puis peut-être que dans ce coin-là, le Moir de la Gardie, l'est de la Margeride, de la forêt de Mercoire, il pouvait y avoir 80, 100 000 brebis transhumantes juste là, dans ces communes-là. C'est là aussi difficile à imaginer.
Et pour donner un ordre de grandeur à nos auditeurs, donc aujourd'hui, il y a à peu près 50% du territoire départemental qui représente cet espace d'élevage. Et il y a à peu près 20 000 brebis qui rejoignent les estives sur le territoire départemental.
Ah oui, je crois que c'est pratiquement plus que sur le Mont-Aigoual. Aujourd'hui, hein, c'est plus possible d'envoyer des transhumants sur la Margeride. Hein. Il y a d'autres formes d'agriculture qui se sont développées, d'élevage très différentes. Mais les parcours au XVIIIe siècle aussi, les terrains, nous, mon parcours, chacun s'en fait une idée, quoi. Mais en réalité, c'est les terrains réservés à dépaissance au XVIIIe siècle. Et vous avez les biens communs sur lesquels on va envoyer dépaître les bêtes, et les bêtes du village, pas que les bêtes transhumantes. Il y a les terres vacantes qui sont employées par personne. Et alors, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a quand même un propriétaire de ces terres vacantes, c'est le seigneur, seigneur éminent. Et si vous payez en tant que villageois la taille, les taxes seigneuriales, vous avez le droit de mettre les bêtes dans un troupeau commun, gardé par un berger commun. Et on va dépaître sur ces terres communes, ces terres vacantes. Et puis s'ajoute, sa phrase d'Albuge, comme dans les autres communes autour, ce qu'on appelle le droit d'accès à ces pâturages, qui est le droit de veine pâture. Et le droit de veine pâture, ça ajoute des terres, des herbages aux herbages. Et la veine pâture, c'est quand, par exemple, la moisson du blé a été faite, on peut envoyer toutes les bêtes du village paître sur vos parcelles à vous, de votre propriété privée. Et il y a des moments de l'année, ça s'appelle la mise en commun, la propriété privée devient une propriété commune. Et il y a des moments de l'année où votre propriété, c'est bien la vôtre, et personne ne peut rentrer dessus. Donc ça, c'est difficile à imaginer. Quand les champs de seigle ont été moissonnés, après la moisson, votre champ de seigle ne vous appartient plus, toutes les bêtes du village peuvent passer paître, les guérir dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est difficile à imaginer, parce que pour nous, la propriété, c'est quelque chose de très exclusif d'autrui. Et là, il y a des moments où il faut mettre en commun. Alors ça ne va pas sans tension, sans friction, sans procès, mais c'est assez particulier.
Et du coup, Caro, ces pratiques, elles existent toujours à l'heure actuelle ?
Alors, il y en a beaucoup qui n'existent plus. En pratique, qui n'existent plus, on peut parler de la nuit de fumature. Hein. Bruno pourra nous expliquer ce que c'est.
Oui, les nuits de fumature, c'est un peu particulier. Je vous ai dit que quand on est dans un village et qui n'accueille pas la transhumance, on met le bétail en commun, avec un berger commun. Il y a à peu près, j'ai plus les milliers de bergers communs qu'il y a en Gévaudan au XVIIIe siècle, mais peu importe. Quand on a mis le troupeau en commun, le berger commun va le faire pâturer sur les terres communes, sur les terres vacantes, sur les terres des particuliers toute la journée. Et le soir, le bétail est ramené de tout le village, va passer la nuit sur les parcelles d'un particulier pour qu'il fasse ses déjections. Et ça fait de l'engrais tous les matins, ce qu'on appellerait des intrants aujourd'hui, mais de l'engrais organique qui est là tous les matins disponible pour aller un peu engraisser les terres, parce que les engrais chimiques n'existent pas, les engrais minéraux pratiquement pas. Et donc il faut les engrais naturels. Et ça s'appelle les nuits de fumature. Et la nuit, les bêtes sont parquées dans des parcs mobiles chez les propriétaires. Et le berger commun peut dormir dans une petite cabane mobile sur des roues pour être protégé des attaques de loups notamment, et pour être au milieu du troupeau qui s'appelle le Twetch.
Il faut savoir que ces nuits de fumature, elles ont cessé il n'y a pas très longtemps. Hein, ça a cessé dans le droit en 1983. Et par contre, aujourd'hui, il y a encore une pratique de récolte et d'éjection des brebis qui s'appelle le migou. Et donc, on le fait encore aujourd'hui.
On peut peut-être faire un zoom un peu plus particulier sur la Margeride, puisque aujourd'hui, on va visiter, on part au Chazeau, en fait, sur la commune de Saint-Frézal-d'Albuge, visiter une grange et une ferme, en fait, un traditionnel. Mais peut-être on peut, avec Bruno, essayer de définir un peu ce qu'est la Margeride, en fait, vraiment. Parce qu'il y a des pratiques qu'on retrouve un peu partout, mais il y a des spécificités selon les territoires aussi.
On a tendance à dire que la Margeride, c'est une montagne, c'est pas tout à fait juste. En géographie, c'est des hautes terres. L'idée, c'est qu'on a des reliefs plutôt relativement doux, des faciès granitiques dessous, pas de nappes phréatiques. L'idée aussi, c'est que ces reliefs qui ont l'air comme ça particulièrement doux, qui vont plafonner à 1400-1500 mètres d'altitude, ils peuvent être entaillés par des vallées très très profondes, avec des dénivelés très très forts. Mais globalement, quand même, on est plutôt sur des hautes terres. Et la Margeride, Vers 1760, c'est dans les 35 000 habitants, c'est dans les 1000 lieux habités, depuis la petite ferme isolée jusqu'aux petits hameaux comme les Chazeaux et puis aux villages un peu plus gros. Et l'idée, c'est que cette population, elle se disperse pas mal. Et une commune, ça va être 10-20 lieux habités. Ça va être un village qui fait 50 habitants en moyenne. On est sur des hautes terres, un habitat dispersé. C'est vraiment des contraintes très particulières, ces hautes terres. C'est-à-dire que on va avoir d'abord un climat qui est assez dur, rigoureux, qui est exposé à tous les vents, en fait. Et parallèlement, les contraintes d'altitude. Plus on va en altitude, plus c'est difficile de s'adapter, de vivre. Donc néanmoins, il y a quand même deux fois plus de personnes qui vivent au pays sur ces hautes terres qu'aujourd'hui.
Est-ce que t'as des chiffres, Bruno ? On sait qu'aujourd'hui, sur la commune de Saint-Frézat-d'Albuche, on a à peu près 60 habitants.
Ah oui, c'est bien documenté.
Est-ce qu'au 18e, tu as des chiffres ?
Oui, j'ai des chiffres pour le 18e. C'est vrai qu'on a des espèces de recensement des années du 17e, du 18e siècle. Et en 1760, on a à peu près 170 habitants à Saint-Frézal. Et puis la population augmente très très fort. On monte à 300 et quelques habitants en 1850. Et puis aujourd'hui, en effet, on est à 60, c'est quand même 5 fois moins, quoi. Donc c'est des endroits où la déprise humaine est très très forte. Et pourtant, on a cette impression qu'on voit que le paysage est très entretenu et qu'il continue à avoir de l'élevage.
Ce qui est intéressant quand on parle de pastoralisme, c'est qu'on a de suite l'image, notamment des Causses et des Cévennes, avec un paysage assez nu, de landes, de calunes, un paysage très ouvert, quelques buissières. Le Genévrier, c'est souvent ces paysages-là qu'on associe au paysage agro-pastoral, et pas forcément les paysages de Margeride. Mais il y a des éléments paysagers qui sont très intéressants, notamment tout ce qui va être sous-bois pâturé, qu'on ne retrouve pas sur les autres secteurs du département, qui ont une vraie richesse d'un point de vue écologique, hein, et puis aussi pour le bien-être animal. Et c'est vrai que c'est tout ce qui va être des pré-bois, des sous-bois, des petites zones humides, va amener toute une richesse botanique très importante pour les bêtes.
Oui, ouais, et du coup, ça permet aussi de compléter ce que j'ai dit sur la Margeride, ces hautes terres ont cette spécificité que, par exemple, on ne le sait pas trop, alors vers la partie sommitale de la Margeride, cette grande bande-là, plus de 1400 mètres d'altitude, qui descend depuis les environs de Saint-Flour jusque pratiquement au-dessus de la vallée du Lot. On a l'alternance sur les sommets de pâturage d'altitude, ces terres vacantes, et de forêts assez épaisses. Et souvent, on nous dit qu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a déjà plus de forêts, ça a été massacré, etc. Ben, c'est pas vrai, en fait, quand on passe par la documentation. On a à peu près les mêmes compartiments paysagers qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de champs céréaliers qu'aujourd'hui, mais comme aujourd'hui, on a deux forêts en une. C'est-à-dire qu'il y a la forêt des sommets, et puis il y a la forêt paysanne par petits bosquets au milieu des parcelles cultivées sur les replats. Et les compartiments paysagers n'ont sans doute pas trop bougé. Il y a autant de forêts aujourd'hui sans doute qu'à la fin du 18e à peu près. Et c'est vrai que les bêtes vont paître jusqu'à la lisière des bois. Mais ça, c'est vrai que c'est très connu d'aller faire paître les bêtes jusque sur la lisière des bois dans toute la France à l'époque de Louis XV. Quoi.
Bah, du coup, Ludo, ce qu'on te propose, c'est directement d'aller voir ces paysages et cette ferme.
Allez, ben je vais vous laisser y aller seul pour la dernière émission de l'année. Je vous fais confiance pour bien enregistrer sur place et on se retrouve à votre retour.
Alors voilà, on est arrivé et exceptionnellement, nous sommes sans Ludo aujourd'hui. Donc c'est moi qui vais faire le job à sa place. Caro, on est où ?
Merci Nelly. Donc on est ici au sud du plateau de la Margeride. On n'est pas très loin de la montagne du Goulet et de ses pentes boisées. On est sur une plaine, hein, un plateau un peu ouvert, sur une petite plaine qui s'étend de 6 km sur 13 km de largeur environ. On est ici sur la plaine de Montbel et c'est un paysage un petit peu étonnant parce qu'en fait on est en Margeride mais nous sommes en réalité sur un cosse calcaire. Donc nous avons devant nous côté sud donc le fameux mont Goulet. Derrière, un peu en arrière-plan, on devine le mont Lozère, sa jumelle un petit peu. On est à 1200 mètres d'altitude et nous sommes pas très loin des Mours de la Gardie et de la montagne de la Margeride. Voilà, donc on avait ici du coup en fait, c'est hérité des mers du secondaire. Hein. Donc en fait, ici, on est sur ce fameux plateau calcaire où l'eau s'infiltre, très peu d'eau ici en surface. Et donc ce paysage de Causses assez atypique pour la Margeride.
Du coup, c'est moi qui te lance, Nelly. Est-ce que tu as des petites choses à nous raconter sur ce plateau de Montbel et sur la commune que nous allons visiter?
Alors oui, quelques petites données sur cette commune de Saint-Frézal-d'Albuge qui, comme tu le disais Caro, est nichée au pied du Mour de la Gardie et elle a une altitude moyenne, cette petite commune, parce que c'est une des plus petites communes de Lozère qui s'étend sur 17,2 km². Et cette commune, elle a une altitude moyenne qui varie entre 1120 mètres et 1496 mètres d'altitude. Donc il faut imaginer ici des hivers un peu rudes. Comme on va l'aborder avec Bruno notamment. Et on est aussi, voilà ce que tu disais tout à l'heure, on est aussi sur le territoire de la forêt de Mercoire pour ceux qui connaissent. Donc Saint-Frézal-d'Albuge, c'est une petite commune qui est composée de plusieurs hameaux, parmi lesquels Chazeau, dans lequel on va se rendre pour visiter une grange traditionnelle, qui est donc le hameau le plus important de la commune, mais aussi La Peyre et Combes-Cisbron. Point de vue historique, on sait que le territoire est occupé depuis l'Antiquité. Plusieurs découvertes archéologiques témoignent d'une présence gallo-romaine. Et puis, au XIXe siècle, on pouvait encore observer les vestiges d'un ancien camp romain au-dessus des lobbies, le mas des lobbies. Des fragments de meules et des ruines ont été également trouvés près du hameau des Chazeaux, tandis que la tradition locale évoque l'existence d'une bourgade gallo-romaine au lieu-dit du Puech. Aussi appelé truc. Voilà. Et puis évidemment, on en a parlé très rapidement dans l'introduction, la fameuse église de Saint-Frézal-d'Albuge qui est classée au titre des monuments historiques et qui est donc accompagnée par un très bel être remarquable qu'il faut se hâter d'aller visiter puisqu'il est rentré en face de ses naissances et donc voilà, il se fait vieux, très vieux.
Et donc là, on arrive sur le hameau de Chazeau, des Chazeaux, nous menons l'enquête, nous vous dirons.
Dans un prochain épisode, qui aura gagné.
Et donc le village des Chazeaux est structuré pas forcément autour d'une place, puisque comme l'a dit Nelly, il y a une petite chapelle, mais il n'y a pas d'église à proprement parler. Il y a une mairie, mais voilà, c'est un village qui est un petit peu distendu autour des rues, un habitat groupé, sans vraiment voilà, d'espace public central, et qui est complètement encaissé pour se protéger des vents du nord.
Peut-être pour terminer, avant d'aller visiter la grange, un mot sur la commune actuellement et l'élevage et l'agriculture qui est menée sur la commune. Donc aujourd'hui, la commune compte 4 exploitations agricoles regroupées sous forme de GAEC. L'élevage bovin domine largement l'activité. En fait, il n'y a plus d'élevage de brebis en fait, au vin à l'heure actuelle sur la commune. Deux fermes laitières situées à La Peyre et à Chazeau qui livrent leur production à Lactalis. Les autres exploitations sont tournées vers l'élevage de vaches allaitantes de race Aubrac. Voilà, et autrefois, comme on le disait, autrefois, il y avait aussi des troupeaux de brebis sur la commune, et la commune était traversée par des drails et donc la transhumance également.
Malgré la disparition des ovins, la commune a quand même gardé ce paysage très ouvert. On voit qu'il y a des espaces qui sont à la fois pâturés, mais d'autres espaces qui sont également cultivés. Et donc, on propose d'aller voir cette ferme, Nelly ?
Allez, on y va. Et voilà, nous sommes arrivés donc à Chazeau pour vous faire découvrir une ferme traditionnelle de la famille Ponce, de Jacqueline Ponce, qu'elle va nous faire découvrir avec Caro.
Et du coup, là, on est juste devant le bâtiment, donc on va la décrire rapidement pour vous. Donc, on est vraiment sur un bâtiment typique des fermes que l'on va retrouver sur la marge ride, c'est-à-dire où on a l'habitation qui est collée à la partie agricole. En bas, du bâtiment agricole, on retrouve l'étable où il y avait des vaches laitières. Et au-dessus, avec des petits fenestrous, c'était le stockage du grain. Et donc, ces petits fenestrous venaient faire la ventilation. On retrouve un petit... C'est pas tout à fait un montadou sur le bâtiment de la maison Ponce, mais en fait, on a un accès à la partie grange par une montée par la pente naturelle du terrain. En réalité, on est un bâtiment qui est inscrit sur la pente avec une grande porte qui donne accès à la grange et accolée au bâtiment agricole, la maison d'habitation qui se trouve sur deux niveaux. On retrouve encore, et c'est assez rare de le voir, les encadrements des fenêtres qui sont peints en blanc à la chaux. On venait comme ça décorer et peindre l'encadrement des fenêtres, donc le tour des fenêtres. Donc une maison assez simple, hein, deux niveaux, deux travées, hein, une porte, une fenêtre, et à l'étage, deux fenêtres.
On va rentrer et rejoindre Jacqueline.
Allons-y. Donc bonjour Jacqueline, merci de nous accueillir dans la maison familiale.
La maison, bonjour Jacqueline. Jacqueline Ponce, née Ponce. Cette maison était la maison de mes grands-parents, qui s'appelaient Émile et Sidonie Ponce.
Et du coup, là, nous sommes rentrés au rez-de-chaussée par un petit sas avec une paroi en bois, puisque la chance que l'on a, c'est que cette habitation a peu bougé depuis l'époque de vos grands-parents. Donc, une cloison en bois qui vient séparer l'escalier qui montait à la partie nuit et la petite pièce de vie autour du poêle.
Voilà, c'est ça, ils avaient peu de place et ils avaient, oui, un poêle à bois pour se chauffer et un évier et pas de salle de bain, pas de salle de bain ici. Donc on faisait chauffer l'eau sur le poêle à bois et on se lavait, je suppose, dans un baquet.
Dans un baquet, au coin du feu.
Au coin du feu. Mais la maison était chaude, hein. C'était très chaud quand même. Hein. La maison était chaude parce que c'était petit et le poêle à bois, ben, leur chauffait l'eau, vu qu'il y a des planchers en bois. Donc la maison était assez chaude pour eux, ouais. Assez chaude pour eux.
Ce qu'on peut dire pour nos auditeurs, c'est qu'en fait, on est, voilà, la partie habitation est vraiment voilà, réduite et petite. Et les cloisons sont toutes en bois. Et ça, c'est très traditionnel, c'est caractéristique. On a ça à peu près dans toutes les maisons à cette époque-là. Donc, on est au XXe siècle, hein, quand vos grands-parents habitent ici. Et donc, l'espace, le premier étage dont Caro parlait tout à l'heure, est dédié donc à l'espace couchage. C'est là où on dormait.
Oui, avec une seule et même chambre, voilà. Avec les lits pour tout le monde,
Et alors, pour décrire la pièce de vie, on est sur une pièce qui fait à peu près 3 mètres de large par 6 mètres de long. Et on trouve au fond une partie un peu plus fermée, qui était à l'origine fermée par un meuble, c'est ce que vous me disiez ?
Par un grand meuble, qui la cave était derrière. Donc, on s'est stocké là-bas les patates, les choux, voilà, tout ce qu'ils avaient à stocker pour l'hiver. Parce qu'ils n'avaient pas de congélateur, eux.
Et oui.
Voilà.
Et donc, ce qu'on peut dire aussi, donc on est toujours dans cette petite entrée, donc à gauche, la partie habitation. À droite, on retrouve donc l'accès à la grange et à l'étable. Et donc, toute la circulation se faisait par l'intérieur.
Voilà, c'est ça, parce que les hivers étaient quand même très rigoureux, avec beaucoup, beaucoup de neige. Et ils n'avaient pas à passer dehors. Ils allaient donner à leurs bêtes, traire, et tout se faisait par l'intérieur.
Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, à cette époque-là, c'est la fonctionnalité qui prédomine. Et donc, tout est assez bien pensé pour qu'on facilite la vie des habitants.
Oui, donc si on avance un peu dans la grange, on va voir du coup un escalier qui permet de descendre sans passer par l'extérieur à l'étable. Que nous n'emprunterons pas aujourd'hui, voilà, et qui permet du coup cette circulation intérieure.
Peut-être décrire la charpente ?
Et oui, on est vraiment sur une charpente très spécifique, d'origine, spécifique à la Margeride. Donc on a des fermes formant chevrons, hein. On va retrouver des poutres tous les 60 cm à peu près, qui ne sont pas taillées, c'est des poutres qui sont rondes, hein, l'arbre brut. On a juste enlevé son écorce. On va retrouver des poteaux qui, eux, par contre, sont plutôt tous les 1,50 m, 2 m, qui reposent sur la base des murs qui est souvent élargie dans la partie étable. Et ensuite, du coup, le mur en pierre, finalement, est après les poteaux. Donc on a les poteaux qui tiennent la charpente, qui reposent sur le mur en rez-de-chaussée, mais le mur à l'étage est décalé et il est à l'arrière des poteaux en bois. Ce qui fait que du coup que ces poteaux ne subissent pas de pourrissement ou de choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que les entrées aussi, donc c'est les pièces qui sont à l'horizontale entre ces fameux chevrons, est retroussé. Ils sont sur une partie un peu plus haute, toujours pour une question fonctionnelle d'augmenter la capacité de stockage du foin, qui à l'époque, bien sûr, n'était pas en botte, mais était en vrac. Donc prenait beaucoup plus de place qu'aujourd'hui.
Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, donc peu d'ouvertures, des ouvertures réduites qui sont étroites. On va limiter les ouvertures dans cette épasse-là parce qu'on n'en a pas d'utilité. On a besoin de garder au maximum un espace de stockage et de garder un maximum aussi la chaleur. Et voilà.
Et du coup, sur la partie basse, donc sur la partie étable, elle a été un peu remodelée, je crois, par la suite, non ?
Elle a été remodelée parce que mon papa a repris l'exploitation familiale donc de mes grands-parents. Donc ils ont fait un peu des aménagements pour mettre un évacuateur à fumier et que ce soit quand même moins pénible. Voilà, une machine à traire. Il fallait moderniser un peu parce qu'à ce moment-là, les tracteurs sont arrivés. Donc après, dans la grange, on stockait des ballots et plus du foin en vrac. Et quand vous parliez des poutres, je pense qu'elles sont très peu espacé par rapport à la quantité de neige qui tombait à l'époque et que tout ne s'effondre pas. Je suppose ça, je ne sais pas, on n'en a jamais parlé avec mes parents, mais je suppose que ça y est pour beaucoup tout ça. Hein.
Ah oui, tout à fait, la charpente, elle est taillée pour supporter, un, la lauze, et deux, le poids de la neige. Et du coup, sur la partie basse, on retrouvait traditionnellement un caniveau central qui servait pour curer la partie étable, les mangeoires de chaque côté. Voilà. Et puis, je ne sais pas si c'était le cas, mais d'habitude, on envoyait le foin directement du haut par le bas.
Oui, il y a des petites trappes là, sur tout le côté gauche de la grange, des petites trappes. Et avec la fourche, il faisait tomber directement dans les mangeoires. Qui, elles, par contre, sont d'époque aussi en bas. Hein. Les mangeoires n'ont pas été changées. C'est juste l'accouchage pour les vaches et le petit caniveau qui servait pour faire passer l'évacuateur à fumier. Et ça, il y a quand même déjà une trentaine d'années.
C'était la première phase de la modernisation avant que le bâtiment soit abandonné.
C'était surtout pour se faciliter le travail, parce que voilà, sortir le fumier à la main et l'hiver, ça ne devait pas être facile. Et puis après, les vaches, quoi, il fallait quand même les nourrir, et ce, deux fois par jour.
Et alors vous, Jacqueline, est-ce que vous avez gardé les vaches ?
Bien sûr, oui. Bien sûr. Nous étions 5 enfants et notre petit travail, c'était d'aller garder les vaches. Voilà. D'aller les sortir le matin, les rentrer le soir, hors période scolaire, parce que voilà. Oui. Mais on gardait les vaches, oui.
Et un troupeau de combien de vaches à peu près ?
Je sais pas, ils avaient une trentaine de bêtes, mes parents.
Mais merci beaucoup, Jacqueline, pour cette visite et de nous avoir ouvert à la porte de la maison familiale.
Mais écoutez, c'est avec plaisir. Voilà, si ça peut donner des renseignements à ceux qui n'ont pas connu, il y en a qui ont connu certainement, même dans le village de Chazot, il y en a qui ont connu tout ça, hein. Moi, je l'ai connu, voilà, puisque je suis née là, je l'ai connu tout ça, je l'ai connu. Mais je n'ai pas connu mes grands-parents, en activité.
Mmh. Ben, merci beaucoup, Jacqueline.
Eh bien, merci beaucoup les filles pour ce beau reportage. On est de retour dans les studios pour cette dernière émission. Bruno, je profite que tu sois encore là avec nous. On a entendu cette visite des Chazot. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de l'époque, de savoir comment ça s'organisait, comment ça se passait à l'époque aux Chazot ?
Oui, en réalité, ça dépend de ce qu'on appelle l'époque, et je pense que c'est valable, ces façons traditionnelles de vivre qu'on voit dans la documentation du XVIIe, du XVIIIe siècle, très probablement dans les grandes lignes jusqu'après la Première ou la Seconde Guerre mondiale même. Les Chazot, qu'est-ce qu'on nous en dit ? Saint-Frézal d'Albuche, qu'est-ce qu'on nous a dit ? Se trouve que c'est un village qui est très documenté au XVIIIe siècle. Curieusement, les hasards de la conservation documentaire. Et la vie, elle est au moins aussi difficile qu'aujourd'hui au XVIIIe siècle, surtout que c'est le petit âge glaciaire, il fait peut-être même encore un peu plus froid qu'aujourd'hui. Le curé, en 1784, il nous dit que les chemins en hiver sont impraticables à cause de la grande quantité des neiges qui y restent pendant environ 6 mois. Et en été, les pluies fréquentes, nous dit-il, rendent les chemins très mauvais. Voilà, alors ça ne surprendra pas les habitants de la commune et des environs, bien sûr. Alors comment on vit ? Par exemple, de l'élevage, bien sûr. Et les Chazot font leur vie de leur côté pour l'élevage au village. Et les habitants des lobbies, par exemple, sur la même commune, n'ont pas le droit d'envoyer leurs bestiaux paître au chasseau. Et au chasseau, on n'a pas le droit d'envoyer paître ses brebis et ses vaches au lobby. Et pareil, chacun des deux villages va accueillir la transhumance au Languedoc, mais chacun avec ses règles du jeu, avec sa façon de faire exclusive de celle des autres voisins. En fait, ce qu'on recherche au chasseau, etc., pour vivre à cette époque-là, à Saint-Frézal, les villages autour, sur la Margeride, c'est des équilibres. Des équilibres économiques, sociaux, paysagers pour arriver à vivre au pays. Il faut ménager les ressources qui existent et dans un environnement très contraint, donc c'est difficile. Et cela dit, bah, ils vont passer par la culture du seigle essentiellement. Et puis ils vont défricher des terres de ci, de là et les mettre en culture une année ou deux sur les terres vacantes, sur les terres communes. C'est communément admis. À Saint-Frézal-d'Albuge, dans les différents villages de la commune, on va cultiver des petites parcelles avec de l'avoine, du seigle et des lentilles. On cultive des lentilles pour manger quotidiennement sur des terres qu'on défriche de ci, de là, en plus du reste. On essaie de gratter un petit peu de terre en plus. Et puis, cette technique d'avoine pâture dont je parlais au début, on la met en place pour essayer de qu'il y ait accès à encore plus d'herbe qu'il n'y en a normalement. Donc, on essaie toujours de ménager la ressource. On ne va pas trop dépêtre dans les bois parce que ça va abîmer la ressource bois. Et la régénération de la forêt. Donc on essaie de trouver des équilibres pour ménager les ressources et se donner des règles pour suivre tout ça. Voilà, mais du coup, ça nous donne l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, le paysage, il est très naturel. Et non, le paysage, il n'est pas naturel parce que l'espace a subi beaucoup d'influences humaines directes. Et c'est pas parce que c'est rural et d'habitat dispersé et peu peuplé aujourd'hui que c'est naturel et sauvage. Il n'y a aucun rapport entre les termes que je vous donne.
Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a vu tout au long de nos visites de cette année. Merci beaucoup Bruno. Caro, est-ce qu'on a une actualité pour cette émission qui est consacrée au pastoralisme ?
Bon, on a plusieurs actualités. Hein. La Chambre d'agriculture de la Lozère a lancé en 2022 un inventaire des drailles existantes et l'objectif c'était vraiment de les cartographier, de préciser un peu leur tracé, puisque ce qu'on n'a pas dit un peu en introduction, c'est que ces drailles ont un petit peu disparu, soit parce qu'elles ont été privatisées, soit parce que la pratique a disparu, mais en tout cas il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour de ces drailles qui n'ont plus forcément un usage collectif.
Et puis c'est très amusant parce que voilà, il n'y a pas de nouvelle histoire, il n'y a que de vieilles oreilles pour de nouvelles histoires, c'est-à-dire que des enquêtes comme ça... Il y en a en 1760, 1770, avec exactement les mêmes préoccupations.
Et donc, évidemment, pourquoi on aborde aujourd'hui le pastoralisme ? D'abord, on l'avait déjà annoncé, je crois, dans la visite précédente, mais on est donc l'année 2026 a été décrétée année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux. Donc, évidemment, il y a pléthore de manifestations autour de ce thème partout en France et dans le monde entier, en fait. Et donc, nous, dans ce cadre-là, on va faire un mini-cycle de conférences avec Bruno Jodon. Et la première conférence, donc, aura lieu le 28 juin à 10h30 au Chazeau, dans une grange traditionnelle, on va dire, où on va aborder plus particulièrement donc, les pratiques, le pastoralisme au XVIIIe siècle sur la Margeride.
Oui, parce qu'il y a toujours cette impression qu'il y a une permanence des pratiques et des paysages. Et en fait, ce sont des impressions vraiment très trompeuses.
Nelly, une anecdote pour Brillant Société ?
Alors, on a des anecdotes qui tuent, qui presque tuent et qui tuent pas du tout, en fait.
Tu veux qu'on commence par celle qui tue ?
Oui, évidemment.
Allez. Comme on l'a dit en introduction, en Margeride, c'est un territoire de montagne avec certains hivers qui sont rudes. On est à 1212 mètres d'altitude. Un certain Jean de Combette, qui est un habitant des Chazeaux, âgé de 65 ans, est mort en venant de Mende à cause du mauvais temps à Montbeufré. Il est décédé le 24 décembre 1745 et il n'a été retrouvé que mort, bien sûr, le 4 janvier 1746.
Ben, joyeux Noël, Jean.
Joyeux Noël, Jean.
Et bonne année, surtout.
Donc, c'est l'anecdote qui tue. On a une anecdote qui a presque tué.
On a une autre anecdote. Alors ça, évidemment, nos anecdotes, c'est Bruno qui nous a donné toutes ces petites anecdotes dans les documents qu'il a consultés d'époque. Et donc là, on a une anecdote où un homme des Cévennes qui va sur la Margeride, pendant la rigoureuse saison de l'hiver, s'est égaré après qu'il ait parcouru plusieurs sentiers qui le conduisent à aucun village. On sait que, ben voilà, il est dans la tourmente, aveuglé, le vent glacial du nord. Bref, il n'en peut plus et donc il est déjà comme mort. Et dans un péril si imminent, il a recours à celle qu'on appelle avec raison le refuge des affligés et fait vœu qu'en l'endroit où il reconnaîtra où il est, il fera bâtir une chapelle à la Sainte Vierge. Et évidemment, un instant après, la bonne Marie lui obtient grâce et il voit à ce moment-là des maisons, et je te le donne en mille. Ces maisons, ces châteaux, ce sont les châteaux, et donc il est sauvé.
Alors ça, c'est des légendes qui sont recueillies par les instituteurs dans les communes de toute la Lozère, et en 1862. Et voilà, on s'aperçoit qu'il y a une légende qui court sur ça, qui doit être racontée à la veillée le soir. Mais on voit avec Jean de Combette que la légende se fonde quand même, hélas, sur des faits réels.
Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, il y a maintenant une chapelle au Chazot et que les habitants du coup obtiennent qu'elle est bâtie au centre du village et pas juste à l'endroit où le Cévenol a aperçu les maisons. Mais par contre, Nelly, la dernière anecdote, c'est justement une histoire de chapelle et d'église.
Oui, ben on est sur la commune de Saint-Frézal-d'Albuge. Et en fait, à Saint-Frézal-d'Albuge, il y a uniquement une église et son presbytère et une grange à côté. Donc en fait, le village, c'est les Chazots en fait. Donc elle porte le nom uniquement de la... Enfin, la commune a pris le nom uniquement de l'église puisqu'il n'y a pas de village autour de cette église qui est très belle d'ailleurs. Je vous invite à aller.
Et pour visiter. Y aller justement, comment on fait
ça? Mais tu passes par les Chazots. En fait, et tu te diriges vers l'église qui est toute seule, accompagnée d'un très bel arbre remarquable, un être qui a été surnommé affectueusement par les habitants Loubartassou, alors qu'il est loin de ressembler à un buisson.
Eh bien, merci. On aura le temps d'y aller cet été. Merci, Bruno, de nous avoir rejoints pour cette émission. Du coup, les filles, on va aller où la prochaine fois ?
En vacances.
Même si le site est quand même en ruine, il est extrêmement bien conservé. Parce qu'on a tous les éléments qu'on va retrouver systématiquement dans les châteaux à cette époque-là.
Visite radiophonique.
La chapelle, le logis et chaque bâtiment est positionné, non pas forcément sur une volonté de composition architecturale, mais vraiment en fonction de la place qu'on avait.
Visite
radiophonique.
Caroline Entraigue.
Nelly Lafont.
Une émission proposée par 48FM avec le Pays d'Art et d'Histoire Mande et Lot en Gévaudan et le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de la Lozère.